Henri Barbusse, le trop beau rêve. Vers la fin de leur séjour dans la maison du parc, les jeux des deux enfants devinrent plus graves. Eux, qui ne s'étaient jamais quittés, s'étonnèrent parfois de se voir et se dévisagèrent. Un soir, il la chercha les yeux au bord d'une chambre où elle venait d'entrer. On ne la voyait pas bien dans l'ombre, de sorte que toute la chambre souriait d'elle. Il s'immobilisa là, ne dit rien, ses lèvres même n'osaient bouger, mais il sentit qu'elle était devenue la seule créature qu'il y eut au monde. Les jours qui suivirent, il vécut dans l'émerveillement de cette soirée. Il enferma ce souvenir dans son âme si belle et si sensible. Il n'en parla pas, ni aux autres, ni à elle, à peine à lui-même, tout bas. Il devint radieusement taciturne, occupé à rêver d'elle, même quand elle était là. Et elle semblait attendre qu'il parlât. La séparation, qui devait durer une année, approcha. Et très vite, le dernier jour commença, fini. Le dernier soir, comme les autres, ils errèrent dans le parc côte à côte. Puis, comme toujours, une vieille voix maternelle les appela de la maison et ils rentrèrent. Et tandis qu'ils longeaient la grande allée, il songea que pendant longtemps il ne la verrait plus. Il la regarda à la dérobée, penchée en avant dans la marche, la figure et les mains si fines, faites avec des lignes claires et fragiles, et il regretta de ne pas lui avoir parlé. Il aurait fallu une parole, quelque chose de fixe, quand on la destinée vague. Mais il n'était plus temps. On distinguait déjà la façade scintillante de la maison à travers l'arbre bleuâtre et rond, semblable à un paon. Et jusqu'à la fin, ils furent séparés par tout le monde. On avait dit « à cet été !» Mais des voyages imprévus, des changements de situation, dispersèrent les grandes personnes dont ils dépendaient. Un an, deux ans, trois ans passèrent. Il ignorait tout d'elle. C'est à peine si, dans une conversation, il entendait de loin en loin son nom chanté. Mais il vivait d'elle. À la fin des journées laborieuses, où tant de temps on se perd en choses nécessaires, il fermait les yeux, la revoyait, et toute sa fatigue était récompensée. En vérité, cette séparation ne lui fut plus cruelle, tellement partout et toujours, il refaisait un paradis où elle était. Moins que jamais, il en parlait. Il ne pouvait pas ne pas être seul à y penser. Son amour était trop grand, trop pur. Il en avait trop le culte. Invinciblement, il se fermait aux confidences par lesquelles les autres vous touchent le cœur. Il voulut lui écrire, il ne sut pas. Et à quoi bon les mots? L'avenir était si magnifique et si sûr. Quand il comptait les jours, en ces moments lassés, où tout paraît précaire et menacé, on est bien obligé d'être inquiet. La douceur de son rêve venait le rassurer. Quand les deux familles revinrent à la maison, il avait 19 ans et elle 17. La revoir était un événement si extraordinaire qu'il retarda son arrivée de plusieurs jours, religieusement. Pourtant, quand il la vit, il ne fut pas surpris. Elle était la même, aussi fine, aussi blonde, mais bien plus épanouie. Elle avait embelli sans changer, à cause du miracle d'elle. Et au premier regard partagé, il la reconnut mieux encore. L'idylle se prépara, émouvante et grandiose. Tout autour d'eux et sur leur figure leur montrait, leur prouvait qu'ils s'étaient choisis. Mais bien qu'elle semblât parfois toute rêveuse, pleine d'un caressant silence et d'une offrande d'attention, il ne lui dit rien. Il parlerait un jour et il l'entendrait, mais les paroles étaient encore trop précises dans l'infini rapprochement. Il la voyait peu. Oh, ce n'était plus aussi simple qu'autrefois d'être ensemble. De menus obstacles les séparaient, heure par heure. Parfois, lorsqu'il raisonnait, il parvenait à comprendre que le temps passait. Puis cette préoccupation lui paraissait sacrilège. Tout cela n'était que des détails, et il les oubliait. Une fois qu'elle était très entourée et qu'on parlait d'étoiles, elle dit « J'ouvre souvent ma fenêtre le soir, au pied de la maison, sur le bord de la route, et je regarde. On ne voit rien, mais je regarde. Oui, presque tous les soirs. » Tandis que la conversation continuait ailleurs, lui palpitait dans toute sa chair, se demandant si c'était pour lui qu'elle avait dit cela. Chez lui, peu à peu, il osa le croire, il osa entendre le grand appel que lui avait jeté. C'était vers lui, à lui, qu'elle ouvrait sa fenêtre dans l'ombre. Oui, l'heure était venue. Oui, un soir tout proche, il irait là-bas, au bord de la maison. Il se figurait la divine rencontre et les paroles qui commenceraient là pour ne plus finir. Durant des soirées, il les créa, les apprit comme un poème, le cœur battant, ivre de gloire. Il remit le pèlerinage. Oh, pas encore. Lui parler à elle qu'il ne regardait qu'avec précaution. Et sur le point de s'en approcher tant, il se disait « déjà » et s'arrêtait ébloui de la beauté même de l'action. C'est alors qu'un événement imprévu abrégea le séjour des siens. Un après-midi, on dit « oh, s'en ira demain !» Et ce fut, tout d'un coup, le dernier soir. Ce soir-là, dans sa chambre, il fut saisi d'une affreuse détresse. Il n'avait pas parlé, il n'avait rien fait. Et maintenant, il n'était plus temps. Trop tard, il ouvrait les yeux. Il voyait distinctement sa faute, son mal, son infirmité. Mais qu'avait-il donc à ne jamais agir, à ne jamais parler, à végéter obstinément dans un rêve creux, dans un mirage d'existence? Un instant, il se dit... Ce soir, il se dressa à demi, palpitant. Ce soir même, et s'il était encore là à attendre? Mais non, il rejeta tout de suite cette idée insensée et retomba sur sa chaise. Il était plus temps, il le sentait bien. Elle l'avait attendu longtemps sans doute, mais voilà bien des jours qu'elle y avait renoncé. Il gémit, se méprisant, se haïssant, jusqu'à ce que la fatigue eût pitié de lui. Et longtemps, longtemps après, aux premières heures de l'aube, l'autre fenêtre sur la route se fermait avec un sanglot. Il n'est plus temps. Ce fut la litanie trop brève dont il berça désormais le deuil de son cœur, sa rentrée dans la vie. Mais une grande nouvelle vint changer la face des choses. Elle venait à Paris. Dans le dernier mois de l'automne, il la vit en visite. Elle était hautaine, réservée, bien différente. Alors il détourna les yeux d'elle. Elle s'était reprise, tout était fini. Et bien qu'elle fût là, elle était perdue à jamais. Et malgré tout, il se sentit blessé dans l'immense pureté de son cœur. Une pudeur farouche lui scella les lèvres. Il fut froid, lointain, frissonnant et déchiré. Il s'en alla, montant sa rue comme un calvaire. Des semaines s'écoulèrent. Un jour, par hasard, il apprit qu'on avait demandé sa main et qu'elle avait refusé. Il releva la tête, riche d'un pauvre espoir. Cette fois, dès qu'il fut seul avec lui-même, il prit des résolutions fermes, sans rémission. S'expliquer avec elle, agir. Cela lui parut si simple que ses hésitations d'antan le stupéfièrent. Il essaya de les comprendre et s'y perdit, la tête dans les mains. Agir. Tout d'abord, établir définitivement sa situation. Ce n'était qu'une question de jours. Il s'en occupa avec acharnement, reprit les démarches laissées en suspens. Il obtint sa nomination et il se dit, se répéta tout haut, « C'est maintenant, il faut parler, oui, tout de suite, demain. » Mais le lendemain, on lui annonça qu'elle venait de se fiancer. Il avait une telle habitude de se taire et de se cacher que nul ne vit l'effroyable blessure que lui fit cette révélation. Dès que la porte de sa chambre fut fermée sur lui, il cria, éperdu, tout bas, « Elle! Elle !» Et debout, chancelant, il se vit dans la glace faire signe que non. Il ne consentait pas. Il refusait le malheur de tout effort de sa vie. Puis il se jeta pour la première fois dans une décision immédiate, la voir. S'agitant, tendant une main fébrile et dansante, il saisit son chapeau, son manteau, il sortit, laissa la porte ouverte, la chambre béante. Il prit des tramways, descendit dans un carrefour de nuit noire, courut. Ce fut elle-même qui lui ouvrit la grille. Il la vit à cause de sa voix dans l'ombre. « Que voulez-vous » dit-elle. « Mais vous voir, vous parler !» commença-t-il. « Enfin, moi, il n'est plus temps de me parler. » Et en un geste d'adieu, elle leva sa main où pour la première fois brillait une bague. Il ne vit que la main qui sortait des ténèbres. Puis il ne vit plus que la bague, cette chose définitive, réelle. Il ne trouva rien à dire contre cela. Il fit quelques pas reculons et partit en geignant, en chantant à mi-voix. « Il n'est plus temps, je le savais bien, je l'ai toujours dit. »